Et donc, il retourne à sa maison, mais on lui demande une autre preuve. On lui dit, le prophète Osée, lui, il connaissait la Torah par cœur. Et donc, si vous êtes bien le prophète Osée, alayhi salam, vous allez pouvoir aussi nous répondre, nous donner la fin de n'importe quel verset du Torah que nous allons vous lire. Et justement, il va faire ses preuves, puisque justement, il connaissait la Torah par cœur. Et à ce moment-là, plus personne n'a de doute sur le fait qu'il s'agit bien du prophète Uzair alayhi salam. Il va donc retourner chez lui dans sa maison. Et pendant ce temps-là, dans sa maison, il y a de nombreux enfants, de nombreux aussi petits-enfants qui sont arrivés. Et puis, il discute avec les uns et les autres. Et il retrouve notamment la fameuse servante qui avait 20 ans à son départ. Maintenant, elle est très âgée. Et elle a perdu la vue à cause de son âge. Et à ce moment-là, quand elle discute avec le prophète Uzair, elle lui dit, si vous êtes bien celui que vous dites, à ce moment-là, vous pouvez me guérir. Vous pouvez faire un miracle. Et à ce moment-là, le prophète Uzair prie pour elle. Et c'est comme ça qu'elle est guérie, qu'elle va retrouver sa vue. Alors, l'histoire du prophète Uzair constitue un exemple pour nous tous, pour tous ceux qui se posent des questions sur le phénomène justement du retour à la vie. Et le Saint-Coran nous explique que finalement, grâce à ce miracle, à cette expérience que le prophète Uzair lui-même a connue, les juifs vont le considérer comme le fils de Dieu. Alors, lorsque nous interrogeons certaines communautés juives, ils nous disent que finalement, ce qui est écrit dans le Saint-Coran est quelque chose qui a été inventé, puisque les juifs n'auraient jamais considéré le prophète Uzair comme le fils de Dieu. Mais lorsque nous regardons un savant juif du nom de Hirschberg, il mentionne dans Encyclopédia Judaïca qu'à l'époque de notre Saint-Prophète, justement, il y avait une communauté juive qui habitait au Yémen, et cette communauté juive s'était en fait basée sur la croyance chrétienne qui disait que, justement, le prophète Issa était le fils de Dieu, qui s'était aussi calquée par rapport aux Arabes, les Arabes de l'époque qui considéraient les anges comme les filles de Dieu. Et donc, quand ils avaient ces deux modèles-là, les Arabes d'un côté, les chrétiens de l'autre, ils se sont dit qu'eux aussi, ils devraient avoir quelque chose à l'image divine, à l'image de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit que, étant donné que le prophète Uzair alayhi salam a eu une histoire extraordinaire et qu'il faisait des miracles, et alors à ce moment-là, ils ont considéré que c'est le prophète Uzair qui méritait le titre de fils de Dieu. Donc, lorsque notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris l'existence de cette communauté juive du Yémen, à ce moment-là, il leur a demandé, comment est-ce que c'est possible que vous considériez justement le prophète Uzair comme le fils de Dieu? Et à ce moment-là, ils disent que c'est grâce au miracle, c'est à cause des miracles du prophète Uzair alayhi sallam. Et à ce moment-là, notre saint prophète leur explique que finalement, si vous êtes en train de parler de miracle, à ce moment-là, et il disait aussi le deuxième argument, c'était que le prophète Uzair, il connaissait la Torah par cœur. Et il maîtrisait chacun des versets de la Torah. Alors, il dit finalement, le prophète Moussa, lui, également maîtrisait la Torah, d'accord, connaissait chacun des versets de la Torah par cœur. Et le prophète Moussa, finalement, c'est à lui qu'a été révélée la Torah. Donc, s'il y a quelqu'un qui mérite plus le titre de fils de Dieu, ce serait le prophète Moussa. Et lorsque nous regardons les miracles du prophète Moussa, vous vous souvenez tous de tout ce qui s'est passé pendant l'époque du prophète Moussa, notamment le bâton qui devenait serpent, notamment la mer qui s'est fendue en deux, etc. Donc, si on regarde au niveau du poids de la puissance des miracles, les miroirs des miracles du prophète Moussa a.s. sont bien plus puissants, bien plus importants que ceux du prophète Uzair a.s. Alors, est-ce que le prophète Uzair al-Islam a été le seul prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala à s'interroger sur la vie après la mort et notamment sur la résurrection? Non. Vous vous souvenez que le prophète Ibrahim al-Islam, à un moment donné, se posait des questions sur la résurrection. Et quand toutes ces questions-là lui ont traversé l'esprit, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé « Est-ce que tu n'as pas confiance ?» Est-ce que tu n'as pas confiance en moi? Est-ce que tu ne me crois pas? Est-ce que tu penses que ce n'est pas possible que quelque chose qui est fini, qui est détruit, qui est déjà décédé, qui est mort, elle peut revenir à la vie? Et à ce moment-là, le prophète Ibrahim a dit non, ce n'est pas que je ne crois pas, ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je suis curieux de savoir comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que ça va se passer que nous, quand nous serons morts, nous allons revenir à la vie, nous allons ressusciter. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Ibrahim alayhisalam de prendre 4 oiseaux et de, avec ces 4 oiseaux-là, de les égorger, de leur donner la mort et ensuite de les envoyer, de les mettre dans 4 endroits différents et ensuite de les appeler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur demander de revenir à la vie. Et le prophète Ibrahim alayhisalam voit ce miracle devant ses yeux et n'arrive pas à en croire ses yeux justement, mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'il expérimente ceci, qu'il expérimente comment est-ce que on peut qu'une créature peut revenir à la vie après son décès. Et donc il y a notamment dans le Saint Coran beaucoup plusieurs endroits où justement on parle de la résurrection. Notamment, il y avait un certain Umayyad ibn Khalaf qui s'est présenté devant notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a amené avec sa main un os et en fait, il voulait se moquer du prophète, il voulait un peu rire du prophète en disant « Vous croyez vraiment qu'un os comme ça va vraiment revenir à la vie, que tous ces os vont finalement redevenir le corps qu'ils étaient ?» Et à ce moment-là, les versets de la sourate Yassine sont révélés. Donc versets 78 et 79 de la sourate 36, sourate Yassine. Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des os une fois réduits en poussière ?» Et la réponse que Allah donne au prophète, « Au prophète dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. » Il se connaît parfaitement à toute création. Et puis, en réponse encore à cette personne, la sourate Qayyaman, la sourate La Résurrection, numéro 75 du Saint-Coran est révélée. Et vous avez notamment ces versets 3 et 4. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si nous nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Et quelle extrémité des doigts de quelle extrémité des doigts on parle ici? Des empreintes digitales. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas ce que le Saint-Coran voulait dire. Certaines personnes, encore aujourd'hui, disent que le Coran est un vieux livre, que c'est un livre qui date de maintenant de 1400 ans et que nous ne devrions pas le garder. C'est quelque chose, c'est un livre d'histoire, c'est un livre ancien et qu'il n'est plus d'actualité. Mais nous voyons tous que finalement, l'empreinte digitale a été découverte quand même bien plus tardivement qu'au moment où le livre a été révélé. Et encore, de nos jours, nous découvrons, les scientifiques découvrent de plus en plus de phénomènes, de plus en plus de choses qui finalement avaient déjà été annoncées dans le Saint-Coran lorsque nous l'analysons correctement. Comme vous savez, les empreintes digitales, les scientifiques disent que les jumeaux, ils peuvent avoir le même ADN, mais ils ont des empreintes digitales qui sont complètement différentes. Donc chacun a bien une empreinte digitale complètement différente des autres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on retrouve les criminels, etc. Donc finalement, ce coup de l'œil, ce miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala est exploité, est utilisé dans beaucoup de domaines aujourd'hui où justement on se sert de cette empreinte digitale. Et puis, lorsque nous parlons de résurrection, comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à explorer la terre, nous invite à regarder autour de nous, à regarder ce qui se passe. D'ailleurs, lorsque nous avions fait un petit peu de tafsir, lorsque nous avions pris une sourate du Coran, la sourate Al-Kabut, d'accord? Vous vous souvenez, quand on avait pris la sourate l'araignée et que nous avions analysé, nous avions vu que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parcourez la terre, d'accord? Nous disait regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez la nature, contemplez et voyez toutes les choses qui ont été créées. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder autour de nous. Pourquoi est-ce qu'il nous a mis dans ce monde? Pour que nous réfléchissions à tout ce qui nous entoure et que nous réussissions à avoir des réponses aux questions que nous nous posons. Si nous regardons par exemple les cellules de notre corps, vous savez très bien que les cellules de notre corps finalement meurent et il y en a d'autres qui se renouvellent à chaque fois, d'accord? Donc il y en a qui meurent, il y en a qui reviennent à la vie, etc. Et finalement, c'est un cercle vicieux, c'est quelque chose qui est un renouvellement perpétuel. Et de la même façon, certains, lorsque nous regardons par exemple des choses aussi simples que les arbres perdent leurs feuilles, ensuite, lorsque le printemps revient, les feuilles reviennent, les fleurs reviennent, etc. Et finalement, cet arbre, il marche par cycle, il tourne en cycle, où il, justement, pratiquement meurt et revient, et meurt et revient, etc. Donc, nous avons autour de nous certains exemples qui peuvent nous aider à comprendre le phénomène, justement, du retour à la vie. Alors, justement, maintenant, nous arrivons aux deux dernières questions que nous nous posions. La première question, c'est est-ce que le jour du jugement, nous aurons l'occasion, nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala? Puisque dans certaines sourates du Coran, vous avez des choses comme sourate Baqara, verset 255, son trône déborde les cieux et la terre, donc on pourrait imaginer que le trône d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala est assis sur un trône, qu'il est comme un roi, qu'il est comme un patriarche, qu'il est comme un roi, d'accord? Et nous avons d'autres versets où, par exemple, ici, la sourate numéro 48, d'accord? La sourate de la victoire, à ce moment-là, nous avons ici la main d'Allah, etc. Donc, dans certains versets du Saint-Coran, nous avons des choses comme cela qui pourraient nous faire penser que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala aurait un corps. Mais des sourates comme celle-ci, en fait, ce n'est pas un sens vrai, c'est un sens littéral, c'est un sens qui est finalement comme une métaphore, mais ce ne sont pas les vraies mains, etc. Quand on dit que les croyants verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le visage physique, mais c'est qu'ils verront les récompenses par rapport aux actions qu'ils auront faites. Et du coup, ce sont donc simplement des images, mais ce n'est pas le sens vrai, le sens brut des versets ici. Donc, bien sûr, dans l'école d'Ahlul Bayt, nous considérons que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'intellect ni de physique comme l'homme, mais qu'il est une entité que nous pouvons ressentir. Nous pouvons ressentir sa présence, mais nous ne le voyons pas, il n'a aucune manifestation physique. La dernière question que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que tous les partisans des Ahlul Bayt alayhi salam, ils bénéficieront de l'intercession des Ahlul Bayt alayhi salam? Nous demandons souvent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les Ahlul Bayt alayhi salam, que notre saint prophète, que nos imams intercèdent en notre faveur. Et d'ailleurs, nos imams nous-mêmes nous ont dit eux-mêmes que nous allons intercéder en votre faveur, nous allons vous aider le jour du jugement. Nous serons là pour vous aider, pour vous secourir au moment où, vous savez, le jour du jugement, personne ne sera là pour vous aider. D'accord ? Vous savez très bien que le jour du jugement, la propre mère ne vous connaîtra plus et ne voudra plus s'occuper de son enfant. Quand son enfant lui demandera quelque chose, sa propre mère lui dira « Non, va-t'en, moi j'ai d'autres choses à... moi-même j'ai énormément de problèmes, là je n'ai vraiment pas le temps. » D'accord ? Ce qu'on dit, c'est que ce sera 9-5-9-6, c'est-à-dire chaque 9, chaque être sera égoïste et sera occupé avec son propre être et son propre besoin à ce moment-là. Alors, est-ce que tous les partisans d'Ahlul Bayt alayhi salam bénéficieront de l'intercession d'Ahlul Bayt alayhi salam? Eh bien, la réponse est non, puisque notre sixième imam alayhi salam lui-même, sur son lit de mort, il disait la salade, ceux qui négligeront la salade, ceux qui négligeront la prière, ne bénéficieront même pas de notre intercession, nous ne les aiderons pas. Donc, oui, nous pouvons compter sur l'intercession de nos Ahlul Bayt. Nous espérons que nos Ahlul Bayt nous aideront, ne nous abandonneront pas. Mais nous devons nous aussi fournir des efforts. Nous ne pouvons pas nous dire que ça viendra du ciel et que nous pouvons rester sans rien faire et mériter l'intercession de nos Ahlul Bayt. Et de la même façon, lorsque nous parlons du Azad Ali, lorsque nous parlons du fait de pleurer sur Bilal Hussein, bien sûr, c'est une très grande bénédiction. Il y a énormément de bienfaits. Nous avons énormément de hadiths en faveur du Azad Ali. Nos imams même nous ont montré combien le Azad Ali est important. Mais de la même façon, il ne suffit pas de verser des larmes sur Imam Hussein al-Islam. Il faut encore que nous prenions sa vie comme exemple et que nous nous accrochions à ce que Imam Hussein al-Islam a voulu nous montrer, ce qu'il nous a expliqué et quelle était véritablement sa mission et ce pourquoi il s'est battu, ce qu'il a voulu défendre en justement sacrifiant sa vie. Et mes chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui le Shahadat de Hazrat Muslim ibn Aqil al-Islam. Vous vous souvenez que lorsque le calife demande à Yazid de demande à Imam Hussein alayhissalam de prêter serment d'allégeance à Yazid, à ce moment-là Imam Hussein dit va rencontrer le gouverneur de Médina et il lui dit qu'une personne comme moi ne peut pas prêter serment d'allégeance à une personne comme Yazid. C'est-à-dire que Imam Hussein n'avait pas quelque chose à l'encontre de Yazid. Ce n'était pas qu'il avait un problème de personne à personne. Il n'était pas d'accord sur le concept même du Yazidiyat. Il n'était pas d'accord avec les habitudes, avec ce que Yazid avait l'habitude de faire. Et à ce moment-là, vous savez que le gouverneur dit que si c'est comme ça, alors nous allons vous assassiner, vous et votre famille. Et à ce moment-là, Imam Hussein al-Islam est obligé de quitter Médina et comme vous le savez, il se rend à Mecca pour le pèlerinage. Mais alors que tous les pèlerins en ce moment sont à Mecca pour le pèlerinage, qu'est-ce qui se passe hier? Imam Hussein al-Islam, hier c'était le jour où justement Imam Hussein al-Islam quitte Mecca, alors que ce soir, aujourd'hui, demain, la journée de Arafat, tout le monde, tous les pèlerins sont sur la plaine de Arafat. Et c'est un jour très très important, c'est un jour justement où tous nos péchés sont pardonnés. Et tous les pèlerins, alors qu'ils se rendent à Arafat, Imam Hussein al-Islam fait demi-tour et il va quitter Mecca pour justement se diriger vers Kaaba.